au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Serge Bradette en studio. Pourquoi on dit quatre fois bonjour le matin? Parce que
c'est... Je me souviens pas, là,
OK. Hey, tu m'écoutes pas. Là, je le sais maintenant. Eh bien, je vais essayer avec Isabelle Falardeau. Pourquoi je dis quatre fois bonjour le matin? Parce que...
Je me rappelle que vous l'avez dit, mais je sais pourquoi.
Là, je commence vraiment à me rendre compte qu'il y a des gens qui ne m'écoutent pas. Parce que c'est quatre fois mieux, quatre bonjours qu'un seul. Je vous ferai remarquer que lundi, à son retour de vacances, Samuel Badel, lui, il savait ça tout de suite. J'ai posé la question, il a répondu tout de suite. Signe que, Samuel, tu m'écoutes.
Eh oui, je suis seul apparemment.
Qu'est-ce qu'on a du plaisir. Bon, écoutez, c'était encore une journée chaude aujourd'hui. Je ferai peut-être la prévision assez rapidement tout de suite. C'est encore chaud, surtout dans l'est du Canada. Mais rassurez-vous, là, ça va tomber dans la journée. Et ça va tomber aussi dans la journée. On prévoit des orages un peu partout dans l'est du pays. Dans l'ouest, ça demeure agréable. Et donc, les avertissements de chaleur, c'est pour le Québec, les provinces de l'Atlantique et pour l'Ontario. Et puis ailleurs, comme je dis, ça va être un temps plutôt ensoleillé dans l'ensemble. Moins chaud, c'est dégagé. Et oui, il y a un avertissement de chaleur aussi en Colombie-Britannique, à l'intérieur des terres, vallée de l'Okanagan, jusque dans Penticton aussi. Mais ça reste plus frais sur la côte. Bien, puisque j'ai Serge et que j'ai Isabelle, commençons par celle qui est éloignée de nous au téléphone. Isabelle, il se passe quoi aujourd'hui dans ta chronique?
Mais moi, je vais vous parler d'un sujet quand même assez terre à terre, le fameux maple washing. Donc, maple un peu comme washing. Le greenwashing, où on prétend qu'on est écologiste pour vendre des produits. Là, on prétend qu'on est canadien pour vendre nos produits, donc que nos produits sont canadiens. J'ai vraiment vu plusieurs articles qui en parlaient parce que c'est vraiment beaucoup dans l'actualité en ce moment, mais j'ai choisi celui-là parce qu'il nous donne un peu aussi quelques pistes de solutions, ou en tout cas des outils pour éviter de se faire avoir par le maple washing.
Oui. Donc, sachez que le lait d'avoine, parce que moi, vous savez, je suis vegan. Alors, le lait d'avoine, c'est habituellement, il faut regarder, mais c'est fait au Canada, le soya aussi. Mais si vous achetez du lait d'amande, même si on vous dit qu'il est fabriqué au Canada, c'est impossible, il n'en pousse pas d'amande ici. Ben ouais. Elle pousse aux États-Unis. Faut se méfier un petit peu. Et puis, comme je le dis, nous, à Canalem, on est dans la rigueur et dans les faits. C'est comme ça que...
Exactement.
Tout à fait. Je vais vers toi, Serge. On parle de quoi ce matin?
Je suis un petit peu dans les plats-demandes d'Isabelle. J'espère qu'elle va me pardonner.
Chicanez-vous pas, là.
Mais je suis au niveau de l'histoire. Alors, c'est dans la revue Nostalgie, il y avait quatre articles intéressants. À la bonne franquette, tout le monde à table. Les semences ancestrales, la table de nos ancêtres, des menus qui pèsent lourd. Et un dernier, quand la technologie nous donne un petit coup de pouce. Alors, c'est intéressant.
On a hâte d'entendre ça. Et moi, je vous propose aussi la chronique des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette. En fait, on va parler d'insécurité linguistique. Je l'ai un petit peu fait détourner parce qu'il a mentionné ça, l'insécurité linguistique. On va vous dire ce que c'est quoi, mais sachez que pour beaucoup de personnes, dont la langue est le français, mais qui parlent d'une autre façon que la majorité ou que les autres, se sentent parfois très mal à l'aise. Et nous, on a vécu ça longtemps. Et parfois, on le vit encore avec nos collègues européens de la France, notamment, cette insécurité linguistique. Et on a de la grande visite en studio, Manon Massé, qui est la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques.
Wow. Chanceux.
Manon vient nous parler donc de son offre de médiation pour essayer d'atténuer les conflits qui ont existé pendant les fiertés ici à Montréal. Et donc, Canalem se retrouve, je pense, on est sur Sherbrooke, on devrait être dans la circonscription de Manon Massé, sinon pas trop loin. Aujourd'hui, donc, c'est le 13 août, c'est la Saint-Hippolyte et la Saint-Jean de Berkmans, et c'est la journée internationale des gauchers. Est-ce qu'il y a des gauchers autour ici?
Pas moi.
Bon, alors, sachez que les gauchers représentent de 10 à 11 de la population. Et en fait, c'est pas aussi binaire qu'on le croyait. Tiens, j'utilise ce terme-là. Parce qu'il y a tout un spectre. Il y a les gens qui sont gauchers pour écrire, mais droitiers pour la force. Donc, il y a tout un spectre. Donc, il y a des personnes dont ambidextre qu'on dirait, ou c'était sexuel, on dirait non-binaire. Mais voilà. Alors, c'est intéressant. Et sachez que notre monde est fait pour les droitiers. Est vraiment fait pour les droitiers. Juste regardez où se trouvent les poignées de porte. Regardez comment comment on attache nos vestes. Alors, ça, c'est un autre petit truc. C'est quelque chose que je vais étaler mon grand savoir. Sachez que les hommes, pourquoi les boutonnières se retrouvent, les boutons se retrouvent à droite? Parce que comme on se boutonnait nous-mêmes, c'était plus facile d'avoir la boutonnière à droite. Mais comme les femmes, c'est à gauche. Pourquoi? Parce que dans la grande aristocratie, elles se faisaient habiller. Donc, c'était à gauche pour elles, mais à droite pour la personne qui boutonnait. Bon, ça y est, on va sortir d'ici un petit peu moins niaiseux, comme dirait l'autre. Bonne fête de l'Acadie, ça s'en vient, hein, ça, c'est le 15 août, mais le festival acadien commence aujourd'hui à Caraquet. C'est la Journée internationale du loup, parce que les gens pensent que c'est un animal qui n'est pas gentil, puis on les tue un petit peu trop, puis ça joue sur l'environnement. Et je vais vous dire qu'en 1842, l'Université d'État d'Indiana décerne un doctorat en droit à l'écrivain et homme politique Louis-Joseph Papineau. Au Yukon, on découvre une pépite d'or de 79 onces. C'est sur les rives de la rivière Bonanza, près de Dawson. Puis là, ben, c'était la ruée vers l'or. 1929, le pont de Québec, symbole d'ingénierie canadienne, est inauguré à la circulation routière. Qu'est-ce qu'il avait de spécial, ce pont? Il s'agissait à l'époque du plus long pont en porte-à-faux. C'est-à-dire que là, c'est des consoles qui tiennent le pont et qui sont attachées aux piliers. C'est assez... Je ne suis pas ingénieur, là, mais j'ai une idée de ce que c'est. Le Canada, en 1940, institue la loi sur le service militaire obligatoire pour tous les hommes canadiens de plus de 21 ans. Et puis, c'est la naissance d'Alfred Hitchcock en 1899, le maître du suspense. Moi, c'est Psychose et les oiseaux, j'ai adoré. Naissance de Fidel Castro en 1926, qui est décédé le 25 novembre 2016. Fidel Castro, le président très connu de Cuba. Et 1910, c'est le décès de Florence Nightingale, l'infirmière britannique fondatrice des soins infirmiers modernes. Le décès de H.G. Wells, écrivain britannique. Et on y va.
Happy birthday to you.
Un classique.
Alors oui, aujourd'hui, c'était l'anniversaire du décès de Marilyn Monroe, 1969. Alors sur ce, on va en musique.
Peut-être qu'un jour tu m'aimeras un peu plus. Peut-être qu'un jour tu m'aimeras comme moi je t'aime, mais je ne serai plus là pour braver ta tempête. Non, je ne serai plus là, 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 pour te prendre dans mes bras. Non, je ne serai plus là pour toutes tes prises de tête. Non, je ne serai plus là, 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 pour danser avec toi. Car la vie accueille ceux qui s'aiment vraiment. Vraiment, oui, la vie j'accueille, je les traîne au gré du vent. Oui, la vie accueille ceux qui s'aiment vraiment. Vraiment, oui, la vie j'accueille, j'enlace au fil du temps. Peut-être qu'un jour tu m'aimeras un peu mieux. Peut-être qu'un jour tu m'aimeras comme moi je t'aime, mais je ne serai plus là pour braver ta tempête. Non, je ne serai plus là, 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 là. La 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 la
Dominique Fils-Aimé, moi je t'aime.
Alors, c'est le temps des unes de l'actualité. Je vous rappelle que j'utilise l'intelligence artificielle Gemini de Google. Je vais être transparent pour m'aider à gagner du temps et voir si on peut améliorer notre travail. C'est donc avec Gemini que j'ai fait les éphémérides, l'éphéméride d'aujourd'hui et la météo et maintenant les unes. Alors, par transparence, je vous le dis. Grève imminente chez Air Canada, les voyages aériens au Canada pourraient être sérieusement perturbés ce week-end. Les agents de bord d'Air Canada, qui sont plus de 10 000 à travers le pays, ont déposé un préavis de grève et pourraient débrayer dès samedi. Les négociations avec le transporteur national sont dans une impasse. Leur syndicat, le Syndicat canadien de la fonction publique, a rejeté la dernière offre de la compagnie et a recommandé à ses membres de voter en faveur de la grève. Les principaux points de discorde portent sur les salaires, les conditions de travail et la sécurité d'emploi. Cette grève potentielle intervient en pleine saison estivale, au moment où des milliers de voyageurs ont des plans de vacances. La compagnie a expliqué qu'en cas d'annulation de vol en raison d'une grève, elle informera ses clients par courriel et texto avant leur voyage et pourront être reroutés ou déplacés sur d'autres vols d'autres compagnies en dedans de 48 heures. Sinon, elle peut aussi offrir des remboursements. Les voyageurs sont invités à suivre de près l'état de leur vol, car les perturbations majeures sont à prévoir si les deux parties ne parviennent pas à s'entendre dans une entente de dernière minute. Et puis, on s'en va maintenant dans la grève en Ukraine. Et puis, Zelensky qui est à Berlin aujourd'hui pour parler à Donald Trump. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est présentement à Berlin, un déplacement stratégique en vue des entretiens avec le président états-unien Donald Trump. Les deux hommes parleront par visioconférence avant la rencontre et ce dernier avec le président Vladimir Poutine, hein, parce que M. Trump doit parler à Vladimir Poutine. Le but de cette visite, président russe, donc le but de cette visite est de consolider le soutien des États-Unis à son pays et les délicates négociations là, de paix à venir. Le président Zelensky a réaffirmé que l'intégrité territoriale de son pays n'est pas négociable, mais qu'il est prêt à trouver une solution diplomatique qui mettrait fin aux hostilités. Il est appuyé des principaux dirigeants européens, dont le chancelier allemand Friedrich Merz et puis le premier ministre britannique Keir Starmer et le président français Emmanuel Macron, qui veulent convaincre le président états-unien de défendre les intérêts de l'Ukraine lors du sommet bilatéral prévu en Alaska ce vendredi. Ce sommet, qui a lieu à l'initiative du président Trump, est vu par plusieurs comme une menace pour l'unité des alliés de l'Ukraine. Le président Zelensky, de son côté, a martelé que l'Europe et les États-Unis devraient rester unis et que toute solution de paix devrait se faire avec la participation de l'Ukraine. Le monde entier surveille de près ces rencontres qui pourraient potentiellement redéfinir la géopolitique de l'Europe de l'Est. Et en fait aussi, c'est parce que Donald Trump aimerait bien obtenir un prix Nobel de la paix.
Eh oui.
Je vous entends rire, mais c'est sérieux. Il voudrait obtenir un prix Nobel de la paix. Mm-hmm. Et ça fait partie de... Il a dit qu'après la présidence, la Maison-Blanche, il voudrait un prix Nobel. Alors, à suivre. Mm-hmm. On retourne en musique.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi
encore plus près de tes adversaires.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi. Le pire c'est toi et moi.
Mais si tu cherches encore ma voix, oublie-moi. Le pire c'est toi et moi. Pourquoi ton prénom me blesse quand il se cache juste à la
C'était Stromae et Pomme, ma meilleure ennemie.
Mais on va aller voir ma meilleure amie, Isabelle.
C'est bon.
Je t'ai entendu soupirer tout à l'heure.
Ben oui, parce que oui, je sais que c'est vrai, mais en même temps, c'est dans la catégorie, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Hein, ça serait vraiment déprimant si. En tout cas.
Mais moi, je dis aux gens, il n'a pas fini de nous surprendre.
Ah, ouais. C'est ça.
Mmh. Ouais. Alors, allons-y dans la chronique d'aujourd'hui.
Ben justement, puisqu'on parlait de Donald Trump, c'est directement lié avec ce fameux maple washing, parce qu'il y a un mouvement au Canada hein, pour acheter canadien en réaction avec tout ce qui nous est venu de négatif de notre voisin américain. Et ben évidemment, les produits canadiens étant populaires, ben il y a des entreprises qui en tirent profit et qui nous trompent avec des feuilles d'érable. Et donc, j'ai choisi cet article-là. Le titre, c'est « Maple washing autour de Campbell's, de tromper les clients avec une feuille d'érable ». C'était publié dans le Journal de Montréal, enfin sur le site du Journal de Montréal le 10 août dernier, sous la plume de Julien McEvoy avec la collaboration de Francis Helin. Et on parle donc de la reine des soupes en conserve, Campbell's, qui est la plus récente entreprise coupable de « maple washing », donc cette stratégie des géants de l'épicerie pour enrichir leur coffre en mettant des feuilles d'érable sur des produits étrangers. Et c'est l'indignation d'un Ontarien, initié sur LinkedIn cette semaine, après sa découverte de la mention conçue au Canada, qui nous a fait découvrir cette nouvelle... c'est peut-être pas si nouveau que ça, mais en tout cas, cette nouvelle entreprise... dont on a découvert la fraude, la tentative de fraude. Je pense que oui, on peut appeler ça de la fraude.
C'est de la
désinformation.
Pas de la désinformation, il y a un terme là, qui ne me vient pas, il me vient juste en anglais, là, mais c'est de la publicité trompeuse.
Voilà. Alors, cet Ontarien, Gary Kane, a dénoncé donc cette pratique-là sur LinkedIn. Il a découvert sur une conserve de soupe junkie l'appellation « conçue au Canada ». Et là, il dit « ce que fait Campbell's est stupide et les gens doivent le savoir ». Parce que lui, en fait, ce consultant de 62 ans souligne que c'est ironique pour la multinationale d'utiliser la feuille d'érable quand on sait que cette compagnie a fermé sa dernière usine au Canada, à Toronto, en 2018. Avec la perte de 380 emplois, au passage. Il dit, j'ai souvent acheté des soupes habitants parce que je croyais que c'était canadien. Il est vraiment fâché, monsieur. C'est comme si tout à coup, on s'ouvre les yeux là, sur toute une information qu'on pensait avoir et qui n'était pas vraie.
Ouais.
Et donc, c'est ça, Campbell's a confirmé au journal que l'ajout de l'image conçue au Canada sur ses boîtes de conserve de soupe a eu lieu après 2018, donc après la fermeture de leur dernière usine. Il dit, on a été une des nombreuses entreprises à le faire, hein, les autres le font, on le ferait pas nous aussi. En 2024, il y a eu un revirement de situation, par contre. Conçu au Canada a commencé à disparaître chez Campbell's. Et Chunky et Habitant sont les deux seules marques qui affichent encore l'image. Et évidemment, c'est du maple washing, parce que conçu au Canada, c'est même pas une désignation officielle.
Ouais.
Il y a Pascal Thériault, qui est économiste et agronome à l'Université McGill, il n'est pas convaincu par le pivot à 180 degrés de la multinationale. Surtout, la marque Habitant est d'origine québécoise avec presque 100 ans d'histoire. Donc oui, ils ont décidé de retirer le logo sur certains produits, mais c'est pas anodin qu'ils l'aient laissé sur ce produit-là. Et là, il faut savoir que c'est là que, dans le fond, des informations qui peuvent nous aider. L'expert nous dit c'est mieux de chercher le logo Aliments du Québec parce que cette appellation-là a un cahier de charge qui est très strict. Donc, si vous voyez le logo Aliments Québec, vous pouvez vous assurer que c'est vraiment des produits du Québec. Ensuite, on a au fédéral deux appellations, Fabriqué au Canada et Produits du Canada.
Oui, tout à fait.
Dans le cas de Fabriqué au Canada, il faut qu'il y ait au moins 51... En fait, que la dernière transformation significative soit effectuée au Canada et qu'il y ait au moins 51% de valeur ajoutée dans cette transformation-là. Et Produit du Canada, il faut qu'il y ait 98% d'ingrédients canadiens. Donc, ces deux appellations-là sont intéressantes. Et tout le reste, conçu au Canada, préparé au Canada, des logos avec des feuilles d'érable et... aucune de ces deux appellations-là, mais c'est complètement aléatoire et non confirmé. On nous dit aussi que, pourtant, c'est drôle parce qu'on nous dit que les consommateurs sont prêts à payer maximum 10 % de plus pour un produit d'ici. Donc, ça ne semble pas énorme, mais au niveau de l'alimentation, des fois, les marges de profit sont très faibles, donc ça peut valoir la peine. Ça, ce 10 %-là que les gens sont prêts à payer de plus, c'est selon un sondage en juillet de la Banque du Canada. Et encore une fois, on dit ils sont prêts à payer seulement parce qu'il existe, dans le fond, s'il existe des alternatives locales à prix équivalent, on est prêt à payer, mais si on ne trouve pas le même prix, ben on va quand même acheter américain. Donc, on est solidaire, mais jusqu'à ce que ça touche notre portefeuille, en quelque sorte. Et là, on nous donne un exemple de maple washing chez Walmart, des raisins produits du Canada à 7,97 qui côtoient des raisins mexicains à 3,97 là, on ne dit pas si c'est à la livre ou au kilo. Et évidemment, les raisins ne poussent pas au Canada au mois d'août.
Moi, je pense que c'est au kilo parce que j'achète beaucoup de raisins, mais il me semble que c'est au kilo, ça.
Merci. Donc, et encore moins pour fournir Walmart, là, selon l'expert. Moi, j'ai vu sur la photo que c'est pas seulement produit du Canada, mais les raisins à 7,97 sont bio et les raisins mexicains ne le sont pas. Donc, c'est sûr qu'à la base, si vous achetez un produit biologique, ça va être plus cher. Mais c'est quand même beaucoup cher dans ce cas-ci, et c'est clairement pas produit au Canada en plein mois d'août. Il y a une enquête de CBC qui a révélé à la fin juillet des incohérences systématiques, donc non pas seulement chez Walmart, mais IGA, Metro, Provigo, des bleuets étiquetés produits du Canada, mais emballés produits des États-Unis, des amandes avec des feuilles d'érable, évidemment, comme vous le disiez, c'est complètement impossible parce qu'on n'a pas d'amandes qui poussent ici. Évidemment, ils sont là seulement pour faire de l'argent. Et là, ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'agence fédérale responsable, la CIA, donc l'Agence canadienne d'inspection des aliments, elle enquête seulement quand elle reçoit une plainte. Et ça, bien évidemment, ça complique les inspections parce que, c'est ça, elle est mise uniquement sur les signalements citoyens plutôt que sur une inspection proactive. Donc, à moins qu'une plainte ne soit reçue, la CIA ne peut pas se prononcer sur la conformité d'un produit. Ça, c'est un porte-parole de l'organisme fédéral qui l'a mentionné aux journalistes. Donc, l'agence confirme avoir traité 91 dossiers depuis novembre 2024 et ayant découvert 29 violations aux règles d'étiquetage. Et dans chaque cas, le problème a été corrigé, mais évidemment, on se doute bien qu'il y a eu beaucoup plus que 29 violations aux règles depuis novembre 2024. C'est une approche réactive. Et ça place évidemment la responsabilité sur nous, les consommateurs, et ça nous rend encore plus vulnérables aux pratiques trompeuses. Et je pense que c'est encore vraiment une bonne raison pour signaler toute violation aux règles que vous constatez, hein, parce que là, maintenant, vous savez que c'est seulement si vous faites une plainte que l'agence fédérale va inspecter, enquêter et sévir s'il y a lieu. Pourtant, les règles d'Ottawa exigent que les renseignements sur les étiquettes induisent pas le consommateur en erreur. Donc, la loi existe, c'est juste qu'on la met pas en application. Il y a une obligation d'indiquer le prix pays d'origine, et ça s'applique aussi aux fruits et légumes frais pré-emballés importés. Il y a certaines provinces qui exigent que la provenance des fruits et légumes frais soit indiquée dans la publicité. C'est encore une fois l'agence, la CIA qui le souligne. Et là, ben, c'est évidemment, ça renvoie les citoyens vers leur gouvernement provincial. Et ben, c'est ça, l'organisme nous invite à signaler les produits à l'étiquette possiblement trompeuse. Vous pouvez le faire soit via sa page web ou encore par téléphone. Alors, soyez vigilants lorsque vous voyez le mot « Canada » sur une étiquette ou une belle feuille d'érable. Ça ne veut pas toujours dire que c'est un produit local.
Tout à fait, tout à fait. Puis, il faut savoir aussi hein, que parfois, les prix de produits qui proviennent des États-Unis sont moins élevés qu'ici. Mais sachez que, remarque, le Canada en fait beaucoup aussi, mais aux États-Unis, on subventionne beaucoup. Énormément l'agriculture.
Voilà.
Alors, ce qui fait que la pratique, on appelle ça du dumping. Alors, c'est sûr qu'on se retrouve avec des produits moins chers. Et l'idée, c'est qu'éventuellement, c'est de détruire l'économie agricole locale et d'imposer la sienne, puis éventuellement imposer ses prix. Alors, c'est...
Je pense que... esclave de ces prix-là.
Oui, souvent, ça coûte moins cher, mais à la longue, ça coûte plus cher. Et moi, je dois dire que cet hiver, on a tous fait ça, regarder la provenance des produits qu'on achetait. Et j'ai remarqué que à Montréal, on produit beaucoup de légumes, de fruits, à partir de serre. Et j'ai trouvé des pommes de laitue absolument délicieuses. Elles étaient produites ici en serre. Et quand je comparais avec le prix des États-Unis, c'était comparable, même avantageux d'acheter ce produit local. Fait qu'il faut le savoir. Voilà.
Effectivement.
Ouais, faut être vigilant. Puis c'est pas seulement une question là, politique de boycotter les États-Unis et tout ça. Non, c'est une question aussi de son portefeuille. Et c'est une question écologique aussi parce que quand on achète de l'extérieur, puis on achète loin, il faut payer les coûts de transport et il y a un coût écologique à ça aussi.
Exactement.
Alors, tout ça, faut prendre en considération. Isabelle, on se retrouve la semaine prochaine ou tu restes peut-être avec nous pour tout à l'heure, la deuxième partie,
oui,
avec la chronique de Serge Vrada. Serge Vrada, on a le temps de dire de quoi tu vas parler?
Oui, c'est l'alimentation, mais au Québec, là, les différentes... comment ça a évolué? Les choses qu'on consomme... qu'on consomme le plus et comment ça a changé aussi, parce que l'agriculture a beaucoup changé.
Oui.
On met l'accent sur l'agriculture biologique maintenant, sans pesticides, tout ça. Alors, on va voir comment ça s'est... comment ça a évolué.
Oui, puis c'est intéressant aussi parce que je parlais de l'agriculture locale. Bien, je ne sais pas dans d'autres villes ou pays, mais je sais qu'à Montréal, quand tu arrives en avion et tu vois les toitures de commerce, grandes surfaces, et il y a des serres. Et il y en a de plus en plus sur les toits. Et puis, il y a des champs aussi qu'ils utilisent. Et cette culture-là, c'est 12 mois par année.
Oui.
Et on peut se nourrir. Oui. Franchement, c'est les fermes Lufa, là, qui, entre autres, ici à Montréal. Mais ça existe ailleurs aussi. Et je me demande si ça ne serait peut-être pas une solution à la crise alimentaire qui affecte notre monde. À suivre, en tout cas. Alors, nous, on s'en va en deuxième partie d'émission. Évidemment, Serge Vrada sera là. Et puis, on va parler des nouvelles de partout au Canada avec Julien Caillouette, qui est rédacteur en chef de Franco Presse, qui est là tous les mercredis. Et on a notre invité aussi, Manon Massé, qui vient en studio nous parler de cette offre de médiation qu'elle fait aux organismes de fierté, parce qu'il y a eu beaucoup de bisbilles là, depuis quelques mois. À suivre.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Je rêve en dose par trop de peine. Moi, rose que mes problèmes. L'amour n'est que là où l'on ne l'attend pas. Oh, j'ai la tête.
C'était la chanson de Marie-Mé, pas prévu.
Allô, Serge Vradette.
Ah,
Allô, allô. Il y a Isabelle qui est au bout du fil aussi, je crois. Salut Isabelle.
Oui, bonjour.
Bon, on continue dans nos chroniques. Puis comme Serge dit qu'il a un peu empiété sur ton territoire, ben, tu pourras y réagir à ce qu'il dit. Allons-y, Serge, de ta chronique aujourd'hui.
Oui, alors c'est dans la revue Nostalgie, numéro 17, des articles. Ils sont tous signés de Carole Anne D. Lebeau. Alors, à la bonne franquette, tout le monde à table. Ah, la mémoire des goûts. N'est-ce pas fascinant de songer au fait que certaines saveurs détiennent le pouvoir d'évoquer des souvenirs précis? Comme quoi, une simple bouchée de tarte au sucre est en mesure de nous transporter au balbutiement de notre vie à la façon d'un voyage sensoriel dans le temps. C'est bien dit, hein?
Ouais.
Poétique. Étrangement, lorsque nous tâchons de reproduire une recette de notre enfance, je pense qu'on a tous vécu ça, il arrive hélas très souvent que nous soyons déçus. Immanquablement, nous laissons échapper le même commentaire, un petit sourire navré aux lèvres. C'était bien meilleur dans le temps.
Dans mon temps.
Certes, les sentiments et l'environnement jouent un rôle important quand il est question de souvenirs. Les repas partagés en famille, les discussions et l'amour transmis dans la préparation contribuent au goût unique des plats de notre passé. Toutefois, divers motifs externes peuvent également justifier la raison pour laquelle nos mets ne possèdent plus ces goûts que nous ont fait découvrir nos aïeux. Une poussée en popularité, les semences ancestrales. Dans les dernières années, bon nombre de jardiniers sont tournés vers ce qu'on appelle une agriculture ancestrale. Qu'est-ce que cela signifie? L'extinction d'innombrables variétés de légumes au cours des 50 dernières années au Québec est fondamentalement attribuable à l'uniformisation des cultures et la révolution verte. Tout d'abord, l'évolution de la mécanisation a encouragé le mode des cultures à haut rendement, substituant graduellement les variétés traditionnelles moins profitables. Des organismes comme le Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, le CTPS, ont parallèlement élaboré des répertoires de variétés préconisées restreignant la culture des variantes non inventoriées. Sans oublier le fait que, au sein de notre société contemporaine, les fruits et légumes sont souvent choisis pour leur apparence uniforme et appétissante, ce qui facilite leur vente dans les marchés. Voilà pourquoi des légumes tels que la pomme de terre Côte d'Ours de Louis-Marie, je n'ai jamais vu ça, mais j'imagine d'où le nom peut venir, là. La tomate plourde, que je ne connais pas non plus, ou encore le concombre tantaline.
Le concombre tante Aline.
Tante Alice. La tomate, okay. C'est ça. On rejoint la trop longue liste des variétés potagères oubliées. Par conséquent, en vue de se réapproprier diverses variantes de légumes disparus, les mordus de semences ancestrales se sont donnés pour mandat de redonner ces lettres de noblesse à la culture de plusieurs diversités de fruits légumiers. Ils assurent ainsi la sauvegarde d'un riche patrimoine génétique tout en jouissant de spécialités aux saveurs uniques à notre coin de pays. Je ne sais pas si on peut les retrouver, ces légumes-là dont on vient de parler, au marché Jean Talon ou dans les marchés publics. Faudrait demander, par curiosité, si je vais m'en donner, je demanderai. Avez-vous la pomme de terre crotte douce?
Je ne sais pas, mais les fermes Lufa dont vous avez parlé tout à l'heure, ils font affaire avec plusieurs cultivateurs qui vendent des légumes ancestraux. J'ai acheté plusieurs tomates ancestrales de toutes sortes de variétés. Mm-hmm. Il y a d'autres produits aussi. Je pense que ça commence à être de plus en plus répandu. C'est très intéressant.
On va partir une nouvelle chronique, nos ancêtres, oui. Les tomates.
Alors, du jardin à l'assiette, la table de nos ancêtres. Si je vous dis potager, quel tableau s'impose naturellement à vous? Moi, c'est le jardin de ma grand-mère maternelle quand j'allais à la campagne à Val-Barrette. Là, c'était un grand jardin. Alors, un jardin bien organisé, doté de rangées de légumes verts, de tomates juteuses, de carottes bien alignées, de courges grimpantes et d'herbes aromatiques. Le tout baigné de soleil, évidemment. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. En 2025, un potager incarne un espace de culture, certes, mais peut également évoquer un élément de plaisir et de détente. C'est un lieu où on peut voir pousser des plantes que nous avons semées, en nous rappelant que la vie impose son propre rythme. Ça, c'est vrai, c'est une leçon, hein, quand on fait un jardin ou on s'occupe d'un verger, ça suit les saisons.
Oui.
Au printemps, tu ensemences, tu les vois pousser tranquillement et tu as la récolte. Puis après ça, il faut que tu nettoies le potager complètement à la fin de l'été pour à l'automne pour le préparer.
Est-ce que tu fais du jardinage, toi, ça?
Non, ben... Non.
Isabelle?
Non.
Ben, pas en ce moment. J'ai quelques herbes parce que j'habite dans un condo avec pas beaucoup d'espace.
J'ai la même situation, mais nous, on a pris la cour arrière, on a enlevé tout le gazon, ce qui est une bonne chose pour l'environnement, puis on a viré ça en un jardin communautaire. Et là, je fais une petite parenthèse. J'ai négligé d'y aller. J'étais en vacances et quand je suis arrivé, j'avais des courges en fait qui ont poussé et j'en ai eu deux. Je vous mens pas, elles font autour de 40 cm, à peu près quoi, un pied et demi de long et énorme et très très délicieuse. Alors j'ai de la courge à manger pour les prochaines semaines.
Alors, les deux mains dans la terre, nous touchons nos racines, ce qui nous permet de revenir à l'essentiel et de nous reconnecter à la nature, reproduisant des gestes mille fois répétés. Toutefois, nos jardins ont, au fil des siècles, connu d'importants changements. En effet, plusieurs légumes, aujourd'hui considérés comme des classiques maraîchers, n'étaient point cultivés au temps des premières colonies.
Ah non!
Le poivron et la pomme de terre, par exemple, n'étaient pas encore connus des jardiniers à l'époque de la Nouvelle-France.
Ah bon?
Oui. D'ailleurs, fait étonnant, saviez-vous que nos ancêtres n'adoptèrent la tomate qu'à la fin du 19e siècle? Il me semble avoir lu que, à cause de la couleur de la tomate, qui est rouge, associée avec l'enfer, le rouge de l'enfer. il me semble que j'avais lu quelque chose sur ça.
Pourquoi ça ne m'étonne pas? Tu sais, on disait quoi? Le ciel est bleu et l'enfer
est
rouge.
Oui. Et ces plusieurs légumes, comme le chou, la laitue, le poireau ou les fèves, revêtaient déjà le nom qu'on leur connaît aujourd'hui. D'autres variétés possédaient des vocables totalement différents. Je pense entre autres à la carotte, que l'on appelait pastenade ou encore au réfort, qui désignait non pas le réfort, comme on serait porté à le croire, mais bien le radis.
Ah bon?
Ouais.
Ah.
En outre, la physionomie des plantes de nos ancêtres était souvent fort différente de celle de nos légumes modernes. Imaginez-vous que les carottes de l'époque n'étaient pas oranges, mais bien rouges, jaunes ou blanches. D'ailleurs, dans les carottes miniatures, dans les épiceries, on les a maintenant, les trois variétés.
Oui, tout à fait.
Ouais, souvent, j'achète ça. J'aime ça, les petites carottes. C'est un très, très bon goût.
Ah, mais ça met de la couleur. Quand on se fait une salade, ça fait de la couleur. C'est beau.
Oui. Et les radis, les betteraves et les navets n'étaient pas ronds, mais fusiformes.
Oui, bien, on achète des radis fusiformes. Ouais, ça existe, à l'épicerie.
Oui. Le gras, c'est ça la vie. Des menus qui pèsent lourd. Attention, là.
Ah oui.
Si aujourd'hui, pratiquement toutes les tendances culinaires occidentales s'accordent sur le fait qu'il est important de manger des aliments non transformés, variés et allégés pour jouir d'une santé de fer, il n'en a pas toujours été ainsi. Mais alors, quand a-t-on commencé à promouvoir une alimentation plus saine au Québec? La place de choix du gras au cœur du régime alimentaire des sociétés humaines ne remonte nullement à hier. En effet, la recherche expose qu'au paléolithique, la moelle était prisée et primordiale à l'équilibre alimentaire. Des scientifiques ont d'ailleurs retrouvé des traces d'extraction de la moelle et de la graisse osseuse laissées sur les os d'herbivores comme le renne, le bison ou le cheval. Si ce gras était fondamental pour ces peuples préhistoriques, il fit également partie de notre univers gastronomique durant de très longues années, à coups de petits lards, de bine au sirop, de mille et un pâtés et de mari fendu à la mélasse.
Attends, la graisse de rôti, qu'est-ce que t'en fais?
Ah oui, belle graisse de rôti, oui.
Les crotons?
Oui. Il convient de rappeler qu'autrefois, les familles mangeaient en général des repas moins diversifiés et plus gras afin d'éviter de perdre des victuailles. Sans oublier que les techniques de préservation des denrées n'étaient pas celles que l'on connaît aujourd'hui. Les graisses animales, comme le lard et le beurre, se conservaient mieux que les marchandises fraîches, ce qui les rendait indispensables dans l'alimentation quotidienne. De plus, les ménages devaient souvent maximiser l'utilisation de tous les produits comestibles pour assurer un approvisionnement suffisant tout au long de l'année. Cela comprenait la consommation de viande grasse et de produits laitiers qui étaient plus résistants à la détérioration. Et en terminant, quand la technologie nous donne un petit coup de pouce, Il n'y a pas si longtemps, offrir une orange en cadeau à un enfant le jour de Noël était une tradition qui évoquait le soleil et la chaleur en plein milieu de l'hiver. D'autant plus qu'il s'agissait d'un présent des plus rarissimes et fastueux, réservé aux familles plus aisées. Cette coutume a perduré jusqu'à ce que les oranges deviennent plus accessibles au cours du 20e siècle. Et effectivement, l'importation de denrées au Québec a commencé à se développer de manière significative après la Première Guerre mondiale, notamment grâce à l'expansion des infrastructures de transport et des techniques de conservation. Les innovations technologiques facilitèrent grandement l'importation de produits alimentaires d'autres pays, diversifiant ainsi le régime des Québécois. Petit à petit, les familles renoncèrent à leur glacière parée de brins de scie pour se tourner vers les réfrigérateurs électriques, les congélateurs, qui ont nettement aussi enrichi notre qualité de vie en nous prodiguant plus de sécurité, de confort et de choix alimentaires. Suivirent les cuisinières électriques, les fours micro-ondes, sans oublier la fameuse friteuse à air.
J'ai résisté, je n'en ai toujours pas de ça. Est-ce que c'est, je ne sais pas si quelqu'un en a, mais je ne sais pas. Est-ce que c'est si bon que ça?
Moi, oui, je l'utilise tous les jours.
Ah oui, et c'est vraiment bon?
Ben, ça dépend du modèle que, pour lequel vous optez. Là. Moi, pour vrai, là, en ce moment, parce que ça, on peut faire des choses dans la friteuse à air qu'on ferait normalement au four. Ouais. Et là, en ce moment, on ne veut pas allumer le four parce qu'il fait tellement chaud.
Tout à fait. Et donc, puis c'est le gras aussi. Mais le gras est un conducteur de goût, et c'est pour ça qu'on aime ça. Mais effectivement, je pense qu'on en mange un petit peu trop. Il me reste...
Même 30... mes légumes.
Ah oui. On a une petite brève en 30 secondes avec toi, Serge.
Ah ben oui. Quel pays produit toute la nourriture dont il a besoin? Réponse? Sur les 186 pays analysés, seul le Guyana, un petit État de 826 000 personnes, au nord-est de l'Amérique du Sud, est entièrement autosuffisant, couvrant les 7 groupes alimentaires pour nourrir tous ses habitants, sans dépendre d'importations. Alors, l'étude menée aux universités d'Édimbourg en Écosse et de Göttingen en Allemagne révèle aussi que moins de la moitié des pays produisent assez de légumes ou de produits végétales ou de protéines végétales pour produire leurs propres besoins alimentaires.
Bon. Wow. Ben voilà. Alors, mangez en paix.
Oui.
Et nous, on s'en va rapidement, une petite pause musicale, puis on retourne après ça dans le Canada francophone. C'est le temps de faire une petite tournée au Canada et puis voir avec Julien Caillouette, qui est rédacteur en chef de Franco-Presse, ce qui se passe au Canada, dans tous ces coins de notre beau pays. Julien, d'abord, bienvenue à l'émission.
Merci.
Les mèmes comme armes culturelles et identitaires des francophones, en fait, en anglais, on dit les mèmes, je pense que nous, on dit les mèmes, hein, ça vient de Franco-Presse.
Oui, oui, on peut dire mime ou même, ça dépend, francisé, c'est même, mais oui, c'est peut-être mieux connu avec la nomenclature anglaise de mime. Mais ce que les experts à qui on a parlé nous disent, c'est que ces mèmes-là, ou mimes, ont une fonction un peu différente dans la francophonie minoritaire. Bon, je vous rappelle ce que c'est des images partagées à répétition sur Internet, sur lesquelles on peut changer le texte pour passer un message par rapport à un sujet quelconque. Une même image peut être utilisée de différentes façons pour décrire une situation, mais c'est aussi et surtout pour faire rire. En francophonie minoritaire, les mèmes gardent ce côté humoristique-là, mais les groupes francophones les utilisent souvent pour montrer leurs différences culturelles et leur unicité face aux anglophones et aux Québécois aussi. Ça aide aussi à se libérer de l'emprise stricte de la langue, parce qu'un mème, on peut écrire le texte comme on veut, on peut faire des blagues et des jeux de mots qu'on veut dans son propre dialecte. Ça aide à réduire l'insécurité linguistique, ça renforce le sentiment d'appartenance au groupe minoritaire aussi. Quoique leur utilisation est relativement limitée, c'est des petits groupes sur les réseaux sociaux qui en partagent. Il faut parfois aussi s'identifier à la communauté pour bien comprendre la blague.
Et puis, la baisse des prix du pont et du traversier pourrait être un coup de pouce pour les francophones de l'île du Prince-Édouard, la Voix acadienne qui raconte ça.
Oui, ils ont exploré la question à la mi-juillet. Le premier ministre Mark Carney était à l'île du Prince-Édouard pour annoncer une baisse du coût, une baisse du péage pour traverser le pont de la Confédération qui relie l'île du Prince-Édouard au reste du continent par le Nouveau-Brunswick, et aussi pour le pèse de Tuco pour le traversier qui relie l'île à la Nouvelle-Écosse. Le péage du pont est entre autres passé de plus de 50 $ à seulement 20 $. Selon les intervenants économiques de la francophonie à qui le journal a parlé, la réduction pourrait favoriser les échanges commerciaux entre la francophonie de l'île avec l'Acadie et le Québec, entre autres, et aussi le reste de la francophonie canadienne. Il y a un représentant jeunesse, lui, qui estime que ça pourrait même encourager un peu plus de jeunes d'aller étudier en français à l'Université de Moncton, parce que ça coûterait moins cher de revenir à la maison une fois de temps en temps, parce que Moncton n'est pas si loin que ça de l'île du Prince-Édouard. De plus, il y a la baisse tarifaire, on estime que ça pourrait stimuler le tourisme. Par exemple, il y a justement à la fête nationale de l'Acadie, le 15 août, dans deux jours, un grand spectacle télévisé va avoir lieu à l'île du Prince-Édouard. Donc, un péage de 20 $ au lieu de 50, ça pourrait inciter plus de gens à traverser pour aller assister à l'événement. Puis même si c'est pas garanti, cette nouvelle assurance-là, ça reste qu'il y a quand même un péage en place, puis il faut faire la route. Mais les organisateurs du spectacle vont devoir si ça aura un impact.
Et puis on s'en va du côté d'Ottawa. Un accent manquant qui dérange, c'est dans le droit.
Oui, juste une petite nouvelle pour vous rappeler à quel point en Ontario, il faut toujours se battre pour les détails pour la francophonie. La communauté d'Orléans, qui est un quartier historique francophone d'Ottawa, s'est battue pendant des années pour que l'accent aigu apparaisse sur le E, sur tout affichage public municipal. Et ils ont fini par avoir gain de cause. Là, c'est relativement bien instauré dans les pratiques. Sauf que la semaine dernière, il y a une nouvelle affiche routière qui a été installée et qui n'avait pas l'accent aigu sur le E de Orléans. Elle a été rapidement remarquée par une résidente qui partageait ça sur les réseaux sociaux. Les commentaires ont flué de toutes parts. Ça s'est rendu aux oreilles du conseiller municipal du quartier qui a réagi rapidement, qui a demandé que ça soit corrigé au service public et ça a été fait. Si vous passez sur la route 174 près d'Ottawa aujourd'hui, vous allez voir Orléans écrit avec son accent. Mais les gens se demandent pourquoi ce genre d'erreur continue à se produire malgré tous les efforts faits au cours des dernières années.
Oui, tout à fait. La communauté haïtienne de plus en plus active à Toronto, selon l'Express.
C'est autour du lancement d'un livre de l'auteur Gabriel Osson qu'on nous raconte un peu cette histoire-là de la communauté haïtienne à Toronto. L'auteur Gabriel Osson est originaire d'Haïti, il demeure à Toronto depuis longtemps et il vient de publier un nouveau livre qui explore l'histoire de Suzanne Simone Baptiste Louverture, qui était la conjointe du célèbre leader révolutionnaire Toussaint Louverture. Mais l'article s'en regarde ensuite la présence croissante de la diaspora haïtienne à Toronto. Selon le recensement de 2021, dans le Grand Toronto, on comptait 4330 personnes d'origine haïtienne, qui était évidemment une augmentation par rapport au recensement précédent. Il y a plusieurs organismes qui sont aussi des exemples de l'engagement de la communauté et de sa présence dans Toronto. On en nomme trois dans l'article. Il y a Perspective Entraide Humanitaire qui est axée sur l'éducation des enfants défavorisés et l'aide aux personnes âgées. Il y a le Quai Créole d'Entraide et Services Professionnels qui se concentre sur le développement social et économique. Puis la Fondation Sylvanie Lindor qui se consacre à l'inclusion sociale et à l'intégration économique des jeunes noirs. L'auteur Gabriel Osson explique aussi qu'il existe apparemment deux principaux types d'immigrants haïtiens à Toronto. Il y a une première vague il y a très longtemps. Ils comprenaient surtout des médecins, des avocats et des professionnels qui avaient étudié en Europe et à Montréal. Puis, en raison de la violence dans les années 80, il y a davantage de travailleurs qui ont immigré au Canada et à Toronto. Et malgré cette immigration-là, l'attachement au pays d'origine est fort, puis il y a beaucoup de soutien qui est fourni, qui est envoyé aux familles restées au pays.
La jeunesse façonne la francophonie canadienne au lendemain là, d'un forum important là, d'ambassadeurs et d'ambassadrices.
C'est dans Exactement. Oui. Ça s'appelle le Forum national des jeunes ambassadeurs et ambassadrices. Ça s'est tenu à Ottawa la semaine dernière. C'est pas toujours à Ottawa, des fois c'est dans d'autres villes canadiennes. C'est organisé par l'organisme français pour l'avenir. Puis c'est un événement d'une semaine qui réunit des jeunes francophones ou des jeunes qui étudient en immersion un peu partout au Canada. Ils participent à une foule d'activités puis d'ateliers. Puis l'objectif, c'est de renforcer leur confiance et leur appréciation de la langue française et qu'ils rapportent ça chez eux. Puisqu'ils portent le titre d'ambassadeur et d'ambassadrice, justement, quand ils reviennent dans leur communauté, dans leurs écoles, ils ont la mission d'organiser des activités pour promouvoir le français auprès des gens de la communauté. Franco-Presse a rencontré 3 participants. Il y en avait un du Yukon, une de Toronto et une du Nouveau-Brunswick. Puis ils nous ont dit, les 3, repartir avec une plus grande confiance en leurs compétences en français parce que, bon, encore une fois, leur accent, leur façon de parler n'était pas jugé. Donc, on met de côté l'insécurité linguistique et automatiquement, ça redonne un peu de confiance en ses capacités. Mais ils repartent aussi avec une multitude d'idées pour faire découvrir la langue à leurs amis et leur communauté. De plus, Français pour l'avenir offre du soutien continu tout au long de l'année, ce qui inclut du mentorat. Si les participants organisent une activité avec l'aide d'un enseignant, par exemple, d'un adulte, et ça leur donne accès à du microfinancement pour organiser ces activités-là. Puis, note que le forum des jeunes ambassadeurs et ambassadrices existe depuis 2004.
Je ne sais pas si tu me permets, Julien, j'aimerais ça sortir un petit peu du texte qu'on a prévu parce que ça fait 2 fois qu'on mentionne insécurité linguistique, puis je trouve que c'est un sujet qui est important. Est-ce qu'on peut le définir rapidement, ce que c'est l'insécurité linguistique?
Avec plaisir. C'est la crainte. Je peux me servir d'exemple parce que j'ai une toute petite insécurité linguistique en anglais, même si je vis en milieu minoritaire, mon accent en anglais paraît beaucoup. Puis on peut être hésitant de s'exprimer dans la langue des autres personnes. C'est la crainte d'être jugé, peut-être parfois de ne pas être bien compris. Et les jeunes francophones, c'est souvent ça qui les arrête. Puis c'est renforcé par la peur d'être corrigé, d'être un peu rabaissé par rapport à notre qualité du français. Puis, ça peut se vivre dans la même communauté, mais ça se vit beaucoup quand des jeunes s'en vont participer à des activités au Québec ou des activités où il y a plus de francophones avec différents accents. Puis, justement, il y a des jeunes qui arrivent avec... Les gens qui arrivent avec un niveau de français plus élevé, puis on se croit pas à la hauteur et on perd confiance en nos capacités. Alors qu'en réalité, comme de plus en plus de spécialistes le disent, la langue peut avoir plusieurs accents, ça évolue, ça change. Alors, ça ne devrait pas être un facteur de compétence.
Bien, merci de le dire parce que je trouve ça important que les gens le sachent et puis surtout quand on est en milieu majoritaire comme au Québec, quand on reçoit des gens qui ne parlent pas la langue de la même façon que nous, d'être peut-être un petit peu plus ouvert et compréhensif.
Puis une autre chose qu'on lit aussi souvent, puis ce que les jeunes nous disaient du forum, c'est quand on parle avec un certain accent, puis là les gens se mettent à nous parler en anglais en pensant qu'on va être plus confortable, mais non, si on parle en français, c'est parce qu'on peut pratiquer notre français.
Tout à fait. Et on termine, là, je sais qu'on a un petit peu divergé, mais on termine avec une franco-manitobaine parmi l'élite mondiale du bridge dans la liberté.
Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que je ne savais pas que le bridge se jouait à ce niveau-là. Le tournoi canadien de bridge a été remporté par une équipe manitobaine qui inclut la franco-manitobaine Marielle Dessel-Brensnall. Ils ont remporté le tournoi national à Toronto en avril et vont s'envoler pour le Danemark du 19 au 30 août pour participer au tournoi mondial de bridge. C'est la première participation au niveau mondial pour Mme Dessel-Bertnold. Puis elle a déjà remporté d'autres prix au niveau national, mais c'est vraiment sa première fois qu'elle va représenter le Canada à l'international. Elle en est très fière. Elle vante les mérites du bridge, elle souligne que c'est une activité exigeante qui incite à penser rationnellement. Elle a même lu, dit-elle, des études qui suggèrent que les joueurs de bridge âgés souffrent moins de démence que ceux qui ne jouent pas au bridge parce que on fait travailler notre cerveau de façon plus régulière. Puis le jeu, ce jeu-là ne se gagne pas seul, ça prend toute une équipe où règne la communication et la collaboration. Donc on va leur souhaiter bonne chance.
Bien, merci beaucoup, Julien Caillouette.
Ça m'a fait plaisir.
Bien, c'est le temps de vous rappeler qu'il y a un avis de chaleur et puis un avis d'orage ici au Québec, surtout dans le sud du Québec et probablement même en Ontario, si j'ai bien lu. Alors oui, c'est le moment où les températures vont tomber. Et avec les températures qui tombent, parce qu'il fait vraiment chaud ces derniers temps, bien, il y a aussi la pluie qui va tomber. Alors... c'est peut-être, on parle d'un avis là, d'orage pour la région de Montréal, du moins en début d'après-midi. Puis plus on va vers l'est, plus ça sera un petit peu plus tard. Donc, ce matin, soyez patients parce que partout, Québec, en Ontario, province de l'Atlantique et même la Colombie-Britannique, il y a des avis de chaleur accablante et des avis d'orage. Et puis, ben, c'est ça, il faut s'en mettre patience. Après la pause, on attend la visite donc de Manon Massé pour parler de son offre de médiation auprès des organismes de fierté là, qui se sont un petit peu crêpés le chignon, fait beaucoup même depuis les derniers mois. Elle veut donc essayer de ramener la paix, si on veut, dans ces communautés. Alors tout après la pause, on vous revient avec des infos et Manon Massé.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Je te laisserai des mots en dessous de ta porte, en dessous de la mule qui charme, tout près de la place où tes pieds passent, caché dans les trous d'un temps d'hiver, et quand tu es seul.
C'était Patrick Watson, je te laisserai des mots.
Oui, mais elle ne nous laisse jamais sans mots et ça fait du bien une belle petite chanson pour présenter Manon Massé. Salut Manon Massé.
Oui, salut.
Alors, vous êtes députée. Bon, là, je vais le dire, en radio, moi, je connais Manon Massé depuis très longtemps. Je pense qu'on s'est connus avant même que vous soyez députée.
C'est fort possible, oui.
Parce que
quand
Manon.
Je m'essayais, comme on dit.
Oui, mais vous étiez quand même impliquée dans les communautés. Puis, en tant que femme qui habite le village, qui vit dans le coin du village, fait. Et puis, qui est donc.
Pas le village, mais.
Pas loin. Alors, député pour Québec solidaire de la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Oui. Alors, ce week-end, Manon, c'était le point culminant des Fiertés à Montréal, les défilés, les danses et spectacles, le tout dans un contexte de tension entre Fierté Montréal et des groupes qui lui reprochent de ne pas dénoncer le génocide de Gaza et de permettre à des contingents juifs, on pourrait dire qu'eux considèrent racistes, là, zionistes, même l'expression qu'ils utilisent, de défiler avec eux. Et donc, il y a un groupe qui a fondé Fierté Indomptable. Il y a eu deux défilés ce week-end. Il y a eu un autre défilé où il y a un petit peu de casse qui était le Rad Pride.
En fait, ils n'ont pas eu le temps.
Ils n'ont pas eu le temps de
les arrêter.
Alors, désolé de voir tout ça, Manon, qui a décidé que il faut faire quelque chose et vous avez affaire aux gens de faire un petit tour, de se parler. Alors, je pense que qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Et que c'est difficile de se vous voyez maintenant.
Ouais, c'est dur. Ben, moi aussi, j'annonce à tout le monde que probablement je vais tutoyer Denis Martin. Mais je vais essayer de le voyer quand même. Ça va être drôle. Je pense qu'il est mon aîné. Je ne sais pas. En tout cas,
j'ai votre date de naissance, Manon. Ouais. Je suis définitivement plus âgé que vous.
Bon, voyez-vous, alors je vais vous dire vous à cause de ça.
Parfait.
Non, mais sérieusement, sans offense, si je te tutoie.
Il n'y a pas de problème.
En fait, ce qui se passe depuis quelques mois autour des festivités de la fierté, c'est quelque chose qui est sous-jacent dans notre mouvement depuis des années. C'est-à-dire, c'est une tension entre le besoin fondamental qu'on a de préserver nos droits et voire même de les voir évoluer. Et pour ça, ben, on le sait, il faut être déterminé, il faut avoir la tête dure, il faut être indomptable d'une certaine façon.
Oui.
Et revendiquer, pas juste à peu près, mais parce que ça ne nous vient pas gratis.
Non.
Et de l'autre côté, ben, ce qu'on a été habitué depuis quelques années, c'est-à-dire la dimension festive, festival, avoir du fun, fêter, se promener comme on a envie. Bon, puis alors cette tension-là existe depuis très longtemps. Et ben, avec le génocide à Gaza, c'est cristallisé quelque chose depuis 2 ans, c'est-à-dire une grande partie du mouvement LGBTQIA2S+. Hein? En un seul souffle, je dirais le mouvement queer, a senti le besoin de dire clairement que ce qui se passe à Gaza, ça n'avait pas de bon sens. Et il y a une partie des gens, puis le festival Fierté, c'est un peu ça. C'est, ils disent, ben nous autres, notre rôle, c'est pas d'être politique, c'est plutôt d'amener, de défendre les droits d'ensemble des gens LGBT à travers la planète. Et ils ont raison. Mais l'enjeu, c'est qu'on a un génocide d'en face.
Oui.
Alors donc, ça s'est cristallisé cette année. Et honnêtement, moi, je suis allé aux 2 marches. J'ai eu du fun comme ça se peut pas aux 2 marches. Parce que je pense que les voix de nos communautés peuvent s'exprimer de façon différente. Et malheureusement, là, ça s'est fait dans le conflit, dans la tension. Mais... moi, comme je l'ai appelé depuis le début des Prides, non, c'est pas vrai, depuis vendredi dernier, j'ai l'impression que ça fait 1 mois, c'est de dire, ben, c'est dans le dialogue qu'on va passer au travers ça.
Oui, parce que quand même, malheureusement, il y a eu des échanges qu'on a vus dans les réseaux sociaux, dans certains médias, des échanges un peu malheureux parce qu'on est tous dans la même... En fait, tout le monde est dans la même revendication quelque part, mais elle est exprimée différemment.
Mais c'est sûr, puis il y a énormément de souffrance, là.
Oui, oui.
Puis notre mouvement, en soi, on est attaqué par quelque chose de plus grand que nous autres. La droite conservatrice,
qui doit se réjouir de voir ça.
Ah, eux autres, ils sont tapés les cuisses la fin de semaine. Mais on le sait, tout le monde le sait. Moi, j'ai parlé avec tout le monde en fin de semaine. Je parle avec tout le monde depuis toujours. Et tout le monde le sait que c'est pas un bon moment pour se diviser.
Non.
Ceci étant dit, se rallier, c'est parfois pas à n'importe quel prix. Et le prix que nos communautés ont à payer actuellement, c'est celui de se parler honnêtement, de façon transparente, de reconnaître ce sur quoi on s'entendra jamais.
Oui.
Mais surtout, de se dire, c'est quoi qu'on peut travailler ensemble parce que actuellement, de façon planétaire, la droite conservatrice s'essuie les pieds sur nos communautés, retire des droits des gens de nos communautés. Et quand ça arrive à un de la gang, je te garantis, Denis Martin, ça arrive à tout le monde.
J'aimerais quand même qu'on regarde l'histoire du mouvement des fiertés. Ça a commencé, puis en anglais, the first pride was a riot. La première fierté, c'était une émeute.
Absolument.
Et c'était un mouvement de revendication politique. Et même Fierté Montréal fait des revendications politiques.
On l'oublie des fois, mais c'est vrai.
Et est-ce que c'est pas à cause que c'est peut-être devenu un petit peu trop commercial? Hein? Moi, je voyais dans le défilé de Fierté Montréal, il y avait plein de compagnies, IKEA, Métro. On les aime, là. Ouais. Ouais.
Dans notre vie privée, on les aime.
Ouais.
Est-ce que c'est leur place dans un festival comme ça? Puis en même temps...
C'est la question qu'il faut se poser, j'imagine.
C'est la question qu'on doit débattre ensemble dans nos communautés.
Oui.
Je veux dire, Fierté Montréal, bon... Outre le fait que quand tu t'appelles Fierté, c'est normal qu'il y ait des gens qui ne se reconnaissent pas en toi, qui disent « Ah non, 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 tu ne me représentes pas, c'est pas ma fierté à moi. » Fait que peut-être que Fierté Montréal a une réflexion à faire sur le propre nom de son festival.
Ouais.
Moi, je dis ça de même, puis je dis rien, là, mais le monde de Fierté le savent parce que je leur en parle aussi. Mais bref, quand t'as un festival comme celui-là qui est financé énormément par nos gouvernements, parce que c'est Tourisme Québec là, qui finance en partie.
Oui, oui.
Alors donc, ça veut dire que ça a des objectifs, ça a une mission qui est pas de faire avancer la cause. La mission, c'est de faire rayonner la communauté LGBT. Et dans ce sens-là, ben comme tous les groupes qui sont rendus à ce niveau-là d'expression dans l'espace public, ben ils ont besoin d'aller chercher du cash. Puis ça, on s'en sort pas. C'est les grandes corporations. Puis il y a des grandes corporations qu'on dans leur, c'est pour ça qu'on va parler du pinkwashing.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils vont utiliser leur surplus indécent. Indécent. Parce qu'en bout de ligne, si ces grandes corporations-là font... Mettons, la banque TD, là, ils sont pas pauvres. Là. Mais s'ils font ces surplus-là, c'est parce qu'ils le font sur notre dos à nous autres. Là, sur le dos des citoyens et citoyennes.
Mais,
ça
même temps,
choque du monde.
Il exige donc de dépolitiser. Parce que souvent, ces corporations-là ne veulent pas être en politique, ce qui fait que le mouvement s'est dépolitisé avec les années.
Exactement. La pression est forte. Même chose pour la présence des sionistes.
Ouais.
Je veux dire, moi... Actuellement,
juste qu'on définisse sioniste, parce que je veux pas qu'on pense que tous les juifs sont sionistes.
Ben voilà,
loin de là,
c'est
un mouvement de personnes habituellement juives qui veulent faire d'Israël un seul pays juif et exclure tous les autres peuples. Je sais pas si la définition est bonne, mais c'est à peu près ça.
C'est une vulgarisation excellente. Et c'est très bien que tu dises qu'ils sont généralement juifs parce que ce n'est pas que des juifs. Ceci étant dit, il faut être clair. Ce n'est pas le peuple juif le problème du génocide.
Pas du tout, parce qu'ils ont manifesté contre ça toute la fin de semaine.
Le problème du génocide, c'est que la communauté internationale est muette depuis plus de 70 ans sur l'État délinquant qu'est l'État d'Israël et l'armée israélienne qui, eux, violent les conventions internationales à tour de bras, dont notamment les territoires occupés de la Palestine. Et ça, là, c'est inacceptable. Moi, que tu sois juif ou whatever, et que tu reconnais pas ça, t'as un sérieux problème. Je ne peux pas être ton ami. Pourquoi? Ben parce que même l'ONU le dit depuis des années. Là, on reconnaît le génocide, la famine, les enfants qui n'ont pas accès à l'eau, à l'éducation, à la santé. Ça n'a pas de bon sens. Ça se passe devant nos yeux. Et la communauté internationale, dont notamment le gouvernement Legault, ne reconnaît pas qu'il y a là un génocide. Et ça, pour moi, c'est inacceptable.
N'est-ce pas là le problème avec Fierté Montréal? Parce qu'il y a beaucoup de juifs, de gays, de personnes LGBT queer, qui sont d'origine musulmane, arabe, palestinienne et autres, qui se sentent vraiment mal vis-à-vis de ça. Et la prise de position de Fierté Montréal est arrivée presque 2 ans après. Même que Mark Carney, le premier ministre canadien, l'ait fait, cette reconnaissance-là.
Exactement. Alors, tu sais, quand on dit « trop peu, trop tard », c'est correct, la reconnaissance est faite, mais moi, je vous dirais, là, il est... Tu sais, on est arrivé à ces festivités-là dans les dernières semaines, heurté, blessé. C'était un shit show, là. Tu sais, c'était pas beau à voir. Ça l'a mis les groupes, tu sais, les groupes là, comme Gris Montréal, pis, ça l'a mis les groupes à l'ATQ. Ces groupes-là ont implosé tellement, la tension était énorme. On va-tu au festival ou on va à l'indomptable? Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas... Puis moi, je pense que ça a été ça ma parole le vendredi, ça a été dire, « Hey gang, on a tout le droit de s'exprimer comme on souhaite. Vous êtes des groupes autonomes, vous y allez comme vous pensez, mais ceci étant dit, vivons ce festival-là, ça arrive une fois par année, vivons-le, mais après ça, il va falloir sérieusement travailler parce qu'on ne peut pas vivre une troisième année comme ça, Denis Martin.
Non,
tu comprends? Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, notre ennemi n'est pas de l'autre côté de la rue. Notre ennemi, il est dans ce conservatif qui s'installe dans ce qui se passe aux États-Unis, au Canada, ici même au Québec. C'est ensemble qu'on va résister à ça. C'est toujours ça et c'est pour ça que la première Pride a été une révolte.
Oui.
Parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas eu de voix avant. Maintenant, on a des voix. Tu sais, je veux dire, le Dyke March, là, la marche lesbienne, a lieu au début juin. Hein?
Oui.
Pas rien, ça.
Ouais.
Puis la marche trans a lieu au mois d'octobre. C'est pas rien, ça. On peut avoir des moments différents pour s'exprimer, mais surtout, puis c'est là que le dialogue est nécessaire, on n'a pas le droit de se diviser parce qu'il y a trop de monde en danger.
Alors, comment les organismes ont réagi à l'offre de Manon de faire une certaine médiation ou de faire de la médiation entre élus?
Ben, écoute, j'ai testé l'idée. La médiation avait déjà commencé avant les festivités, mais j'ai testé, l'idée largement en fin de semaine auprès de toutes sortes de monde, anglophones, francophones, queer, straight, quasiment. Bon, hein, ouais, on y va. Et je pense que tout le monde est rendu à se dire non, faut qu'on fasse quelque chose parce que on s'attaque pas au bon. Tu sais, on n'a pas le bon adversaire. Et comment on va le faire? Qui va le faire? C'est sûr que moi, Denis Martin, tu sais, moi, je suis une politicienne, là. Fait que moi, tout le monde me dit, hey, Manon, on a besoin de toi là-dedans. Moi, je suis prête à faire bien des choses, mais il y a une chose que j'haïs dans la vie, c'est l'ingérence politique.
Oui.
C'est, je me suis battu contre ça toute ma vie, mais je sais que ma voix, elle est importante pour rallier. Et moi, je mets tout ce que je peux comme énergie pour dire aux gens, c'est l'heure maintenant de s'asseoir, de discuter et de préparer 2026
ouais.
et toutes les attaques qui viennent avant la fierté 2026.
Mais je veux quand même rappeler que avant d'être politicienne, Manon Massé était impliquée dans toutes sortes d'organismes communautaires. Ça vous donne une certaine crédibilité, en fait une grande crédibilité auprès des gens quand vous leur parlez.
C'est sûr. Mais moi, tu sais, je veux dire, j'ai fait depuis 12 ans que je suis élu maintenant le choix d'être dans l'arène politique. Bon, c'est sûr que si les groupes m'implorent de faire cette rencontre-là, de faire cet appel-là, je le ferai, mais je pense plus à... Il y a d'autres excellents leaders féminins, masculins, non-binaires dans notre communauté. Et, tu sais, moi, je vais appuyer, je vais être là. Mais ce que je sais, c'est que je ne cesse, et ton micro me permet de le redire, vous savez, gang, l'ennemi, là, n'est pas la personne qui est assise à côté de nous autres. L'ennemi, c'est des systèmes qui nous oppressent, dont notamment le système qui est celui, l'hétéronormativité, qui est celui qui
nous... Le patriarcat, quoi.
Le patriarcat ouais, qui ouais. nous étouffe. Et c'est pas parce qu'on est LGBTQIA2+, qu'on ne reproduit pas ces patterns-là. Il faut avoir l'honnêteté de se regarder, l'ouverture d'entendre l'autre, et après ça... Tous les groupes prendront les décisions qu'ils ont à prendre. Et c'est peut-être là que, dans le fond, tu as raison. Je peux agir en amont parce qu'au niveau de la décision, ça l'appartiendra au groupe. Mais il est temps qu'on se rallie. Ça va mal.
C'est clair qu'on va vous réinviter dans mon autre émission, peut-être même celle-ci, pour en discuter. Est-ce que je peux me permettre de changer de sujet?
Oui, bien oui. sûr.
Parce qu'il y a quand même, on a une élection partielle.
Oui.
Oh, que là, ça va pas bien. Les votes n'ont pas été très bons pour le Parti Québec solidaire.
Oui.
Vous êtes en réflexion, j'imagine, sur comment... Parce qu'il y a l'élection générale qui s'en vient.
C'est... Oui. Ben écoute, on va se le dire, là. Tu sais, on a fait beaucoup de terrain à Québec solidaire, puis les gens étaient clairement... Puis c'est ça qu'on a vu dans l'expression du vote. Les gens ne voulaient pas Éric Duhem.
Ouais.
Alors, même les gens qui sont loin d'être pour le PQ, là, mais qui... Tu connais notre mode de scrutin, c'est de la chenoute. Là.
C'est le premier qui arrive au plus haut qui gagne.
C'est exactement. Ouais. Puis c'est rare que tu votes pour tes valeurs, la personne que tu crois, le parti que tu veux. Tu votes pour bloquer ce que tu veux pas. Et il y a des sénateurs qui nous l'ont dit clairement. Ils ne voulaient pas qu'Éric Duhem rentre. Et pour ça, ben, ils ont fait le choix d'aller vers Boissonneau. Alors, écoute, moi, si ce PQ-là qui semble en montée, qui veut, si vraiment il veut faire une bonne cause, là, qu'il réforme ce maudit mode de scrutin-là, pourquoi? Ben, parce que c'est la démocratie qui est en jeu.
Tout à fait.
Et dans ce sens-là, ben, j'espère que Boissonneau va pousser ça et mettre ça de l'avant.
Et puis, la petite dernière.
Ah ouais.
Est-ce que vous vous représentez?
Ben écoute, c'est sûr, la question, elle est super légitime. Si tu me l'avais posée l'année passée, la réponse aurait été non, je suis pas capable. Physiquement, j'ai pas l'énergie.
Oui, parce que c'est ça, vous avez eu des enjeux de santé, mais ça va mieux maintenant.
Mais
oui.
Ça va bien, je reviens, je suis en forme, tu le vois.
Oui.
Vous le voyez, pardon.
Ah!
mais dans un an et demi, c'est encore un peu loin, mais soyez assurés que j'y pense sérieusement. Parce que je sais que le Québec a besoin de Québec solidaire et Manon Massé à Québec solidaire joue un rôle important.
Manon Massé, qui répond à toutes les questions qu'on lui pose sans hésitation. Merci beaucoup d'avoir passé ici à Canalem.
N'importe quand, je suis disponible.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, de ma part, les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandes. Je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi.
C'était Céline Dion, Hymne à l'amour.
Oui, magistralement interprété lors des cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques à Paris l'an dernier. Puis, je ne sais pas pourquoi, je trouvais que ça donnait bien avec l'entrevue qu'on venait de faire. Hein? Dieu réunit ceux qui s'aiment. Bon, même si on ne croit pas en Dieu, mais ce n'est pas grave. C'était le fun. Peut-être que ça va être Manon qui va réunir ceux qui s'aiment. Allons-y avec une petite nouvelle avant de terminer. En fait, un désaccord commercial Chine-Canada. Le torchon brûle entre le Canada et la Chine. Le Canada s'est dit profondément déçu par la décision de la Chine d'imposer des droits de douane provisoires territoire de 75,8% sur les produits issus du canola canadien. Cette mesure a été annoncée après des désaccords sur des questions d'inspection. La Chine a lancé une enquête anti-dumping et prétend que le secteur agricole canadien bénéficie de subventions importantes et de politiques préférentielles de la part du gouvernement. Les producteurs de canola canadien, notamment dans les prairies, craignent les répercussions économiques de cette décision et le gouvernement fédéral a déclaré qu'il évaluerait toutes les options pour résoudre ce différend commercial et protéger les intérêts des agriculteurs exportateurs. La situation est d'autant plus préoccupante que la Chine est l'un des plus grands importateurs de canola canadien. Les experts craignent que ce conflit n'affecte d'autres secteurs économiques du Canada, car il s'agit d'un nouvel épisode dans la guerre commerciale qui ne cesse de s'intensifier entre les deux pays.
Quand la machine m'emporte vers les paysages, il vient et m'apporte des larmes de passage. Quand la solitude vient me rendre visite, j'ai pris l'habitude alors de l'inviter. Il vient chanter pour moi, me fait pleurer parfois. Souvent, même si je n'étais pas là pour ça, il me fait pleurer ma foi. Si j'y retourne, c'est que j'aime ça, pleurer dans sa voix, pleurer dans sa voix, pleurer dans sa voix, pleurer. Hello there, Sal, it's your old friend Tom. I am very proud of the person you've become. Where I am weak, oh, you seem strong. See into your soul when I listen to your songs. I shut my eyes and I hear you sing. Feel a storm underneath my wing. And I know we'll be friends until the bitter end. And I know we'll be friends until the bitter end. Don't have worry. Don't have worry. Don't have worry. Don't have worry.
C'était Zao de Sagazan et Tom Odell, Old Friend.
On a une petite minute parce que je dis depuis le début de la semaine que j'utilise maintenant l'intelligence artificielle pour m'assister à faire cette émission. C'est pas l'intelligence artificielle qui va faire les recherches et qui va vous parler, ça sera jamais ça. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que j'expliquais à Samuel en début d'émission. Je demande à l'intelligence artificielle de reprendre des textes que je lui donne et de le mettre dans mon style de lecture. Puis je pense que ça fonctionne, Samuel, hein?
Oui, je confirme. Ouais, ça fait.
Je reçois les textes, je dis, mon Dieu, j'aurais pu écrire ça moi-même. C'est un petit peu déroutant parce que la crainte que j'ai, c'est que finalement, quelqu'un d'autre pourrait utiliser mon style et puis faire des émissions de radio avec ça. Alors, ben justement, Samuel, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. On a eu une émission assez intéressante. Puis il y en aura une autre demain, même heure, même poste. Donc, Samuel Badel qui fait la mise en onde de cette émission. Et moi, je m'appelle Denis-Martin Chabot. J'anime, je fais la recherche, assisté de mon nouvel ami Gemini ou Gemini, qui est l'intelligence artificielle de Google, qui me donne un petit coup de pouce et rend ma vie plus facile. Mais je vous assure que c'est moi qui fais l'animation, il n'y a pas d'autre chose. Allez, à plus.